Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invitée de Pluriel est Béatrice de Lavalette, adjointe au maire de Suresnes en charge des relations humaines et du dialogue social, ancienne vice-présidente de la région Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir Loïc Barrière.
Alors Béatrice de Lavalette, vous organisez ce mardi la 8e rencontre du dialogue social, une rencontre qui a été reportée à plusieurs reprises en raison du Covid, une rencontre avec des responsables politiques, des syndicalistes et des responsables d'entreprises. Pourquoi dans votre ville de Suresnes?
Oui, effectivement, reportée deux fois en raison de la pandémie, mais qui vont enfin se tenir ce mardi 19 octobre à Suresnes. Alors pourquoi à Suresnes? Bah effectivement, j'organise ces rencontres depuis 2013 à Suresnes, qui se sont imposées, je dirais, au fil des années, comme un événement incontournable du paysage social français. C'est pas moi qui le dis, mais de nombreux intervenants l'ont qualifié au fil des années comme un véritable Davos du dialogue social. Alors vous le savez, Loïc Barrière, je conduis depuis une douzaine d'années une politique de ressources humaines et de dialogue social unique, innovante, qualifiée de pionnière, puisque un certain nombre de villes comme Paris, Lyon, Marseille, des grands ministères ou des grandes entreprises comme Total, EDF ou Carrefour sont venues à Suresnes pour s'inspirer de notre politique, que cette politique est reconnue à l'international par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui a salué notre modèle de dialogue social, qu'il a qualifié de concret, réussi et transposable. Et puis, je suis effectivement la seule représentante aujourd'hui du secteur public, de tout le secteur public français, au sein de la plateforme internationale du Global Deal, qui réunit une vingtaine de pays, une trentaine de grandes entreprises du CAC 40 et des organisations, quatre organisations syndicales, pour promouvoir le dialogue social à l'échelle mondiale. C'est la ville de Suresnes qui conduit cette politique, comme je viens de le dire, cette politique pionnière, innovante, qui est reconnue nationalement, internationalement, parce que depuis une douzaine d'années, eh bien, j'ai mis en place un modèle de dialogue social qui est singulier, qui a fait le pari de la confiance et de l'intelligence collective avec nos syndicats, avec pour socle de cette politique, la charte de reconnaissance du parcours syndical, hein, que j'ai signée avec les trois syndicats CGT, CFDT, FO en 2009, et qui permet de favoriser l'engagement syndical, de reconnaître et de valoriser les compétences acquises dans un mandat pour favoriser l'engagement et le renouvellement des équipes.
Béatrice de Lavalette, quel est le thème de cette 8e rencontre du dialogue social ce mardi à Suresnes?
Voilà. Alors, le thème de ces rencontres, c'est le dialogue social, condition indispensable d'une relance économique pérenne. Donc, vous le savez, les deux dernières années sociales ont été mouvementées, marquées évidemment par la crise sanitaire. Cette crise a confirmé les difficultés qui existent pour le dialogue social au niveau national, avec une perte d'influence, hein, qui ne date pas d'hier, bien sûr. Mais cette crise a aussi révélé une vraie vitalité, je dois le dire, du dialogue social au niveau local, dans les entreprises, puisque pendant cette crise, on a quand même eu 80 000 accords d'entreprise signés en 2020, ce qui constitue un record. Et donc notre colloque, il se présente comme un véritable laboratoire de l'innovation sociale. Il est basé sur l'interaction avec le public. Hein. Toute la journée, on va le solliciter via une application. Ils pourront poser leurs questions. Il y aura avant et après chaque table ronde des questions qui leur seront posées, questions a priori, questions a posteriori. L'idée étant de voir si on arrive à faire bouger les lignes tout au long de la journée. Vous voyez, on commencera la journée avec un nuage de mots pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent du dialogue social et on la terminera de la même façon. On veut vraiment essayer de faire bouger les lignes et contribuer à faire évoluer le dialogue social dans ce pays vers un dialogue plus apaisé, plus constructif, tel qu'il existe dans les pays d'Europe du Nord et qui est un vrai levier de performance publique et de progrès social.
Donc il y a un certain nombre de personnalités qui seront présentes,
voilà,
à Suresnes.
Exactement. C'est une journée extrêmement riche. On a plus de 500 inscrits à ce jour, des parlementaires, des élus locaux, des DRH, des représentants syndicaux, patronaux, des experts RH du dialogue social, nationaux et internationaux, et puis des personnalités, puisque nous accueillerons deux ministres, Jean-Michel Blanquer, Elisabeth Moreno. Nous aurons un grand duel entre Laurent Escure et Agnès Verdier-Molinier. Nous aurons le secrétaire général adjoint de l'Élysée, Pierre-André Imbert. Nous aurons un décryptage de l'année sociale avec Bernard Cohen-Haddad, qui est le président de la CPME, Petites et Moyennes d'Entreprises d'Île-de-France, et Carole Couvert, qui est la vice-présidente du Conseil économique et social. Nous aurons les DRH de Total, d'AXA, de Carrefour. Nous aurons le représentant de la plateforme du Global Deal. Nous aurons des avocats comme Franck Morel, qui était le conseiller social du Premier ministre. Et puis, nous aurons l'après-midi Laurent Bigorre, le directeur de l'Institut Montaigne, Audrey Richard, la présidente de l'ANDRH, et qui est aussi DRH du groupe UP, l'ANDRH qui représente les 5000 DRH du public et du privé les plus importants de France, ou Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail. Et nous conclurons la journée par Christophe Leparc, un fondateur d'un code de DRH, et surtout Aymeri Goudin, qui est quand même le président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, une organisation patronale particulièrement progressiste. Voilà. Et on aura une table ronde, c'est important de le dire, internationale le matin, avec des représentants de la Finlande, du Danemark, de la Suède, de l'Allemagne, qui sera organisée et qui sera animée par le directeur de l'OIT.
Béatrice de Lavalette, la crise sanitaire a eu des conséquences pour les travailleurs dans le monde entier. Télétravail pour les uns, décision de quitter définitivement leur emploi pour les autres. Je pense aussi au déménagement en province pour de nombreux franciliens. Quelles leçons devons-nous tirer de la crise sanitaire dans le monde du travail ?
Alors, c'est vrai qu'avec l'explosion du télétravail, la crise sanitaire a profondément bouleversé le monde du travail, qui était déjà entré dans une ère de mutation depuis quelques années. Et donc, ce qu'on appelait le monde d'après va probablement marquer la fin progressive du principe d'unicité du lieu du travail, puisqu'on assiste déjà à une diversification des lieux d'exercice du travail, hein, avec le télétravail, les espaces de coworking, les tiers-lieux. Donc, pour les entreprises, ces bouleversements impactent directement leur stratégie immobilière. On voit... puisque si les salariés sont davantage en télétravail, les entreprises n'ont plus besoin d'un nombre identique de mètres carrés. On le voit par exemple dans le quartier de la Défense, hein, où les bureaux n'ont jamais été aussi désertés. Et donc, nous par exemple à Suren, c'est cette mutation que nous avions souhaité anticiper dès 2017, et on avait mis en place, heureusement, très tôt, la généralisation du télétravail pour nos agents. Ça a été une expérience particulièrement positive, qui nous a permis à la fois de préserver la continuité de service public pendant les grèves, mais pendant la crise sanitaire, on a pu, contrairement à beaucoup d'autres collectivités ou entreprises qui s'y étaient pas préparées, parce que tous nos salariés étaient équipés d'ordinateurs et avaient pris l'habitude déjà d'y travailler, de rester tout à fait opérationnel.
Béatrice de Lavalette, il y a des sujets conflictuels qui n'ont pas encore été tranchés, les retraites, l'assurance chômage, des sujets qui seront sur la table pour l'élection présidentielle. Est-ce qu'un dialogue social vous paraît possible sur des sujets aussi sensibles alors que les intérêts des uns et des autres sont totalement divergents ?
Alors, c'est pas que le dialogue social est possible, c'est qu'il est absolument indispensable. Je le dis souvent, le dialogue social, c'est pas un coût, c'est pas une dépense, mais c'est un investissement pour l'avenir. Le dialogue social, pour moi, c'est pas une option. Je le dis en tant qu'employeur, c'est pas une option, un choix qu'on pourrait écarter. C'est véritablement une nécessité absolue et vertueuse. C'est le dialogue social, au contraire, un fantastique levier d'optimisation de la performance publique et du progrès social. Regardez à l'étranger, par exemple, notamment du côté des pays d'Europe du Nord. Ces pays connaissent très peu de conflits sociaux et sont extrêmement compétitifs, comme le prouvent régulièrement les rapports du Forum économique mondial de Davos. Donc là-bas, l'objectif, c'est le compromis pour que tout le monde soit gagnant. À mon échelle, par exemple, à Suren, j'ai toujours prouvé qu'il était possible de surmonter les divergences initiales en trouvant la voie du compromis et du consensus. Mais évidemment, ça implique un long travail de concertation, de négociation avec les organisations syndicales, qui doit s'ancrer dans une culture forte de dialogue social, empreinte de respect mutuel et de confiance. Et ces accords, ils doivent déboucher sur du gagnant-gagnant et la garantie que l'employeur, que ces accords seront respectés et appliqués.
Alors, vous êtes vous-même une praticienne du dialogue social dans la ville de Suresnes, comme vous l'avez été à la région Île-de-France. C'est par le dialogue social qu'on peut avancer sur des sujets précis comme la lutte contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes, les droits des personnes en situation de handicap.
Exactement. À Suresnes, en fait, j'ai fait du dialogue social le cœur et la condition sine qua non de toute ma politique RH. Et donc, tous les autres axes de ma politique, le handicap, l'égalité femmes-hommes, la qualité de vie au travail, tous les autres axes en découlent. Et j'ai prouvé avec les organisations syndicales que nous pouvions avancer main dans la main sur des sujets aussi essentiels, car c'est évidemment une nécessité pour un employeur qui veut conduire une politique RSE exemplaire. Alors, ça, effectivement, vous avez la gentillesse de le rappeler, j'ai fait depuis longtemps de l'égalité professionnelle femmes-hommes, de l'inclusion des personnes en situation de handicap et de la lutte contre l'ensemble des discriminations, quelles qu'elles soient, syndicales. Hein, je rappelle que c'est la troisième cause de discrimination, la discrimination syndicale, selon le défenseur des droits et l'OIT, les discriminations liées au sexe, les discriminations liées au genre. J'en ai fait une des priorités absolues de ma politique RH. Et donc, c'est pas un hasard si notre ville est une des quatre seules communes en France à détenir sans discontinuer depuis 2014. Et c'est très difficile, une fois qu'on a obtenu une fois, de le conserver, je peux vous le dire, le très exigeant label AFNOR, égalité professionnelle.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la charte de reconnaissance du parcours syndical et le bon syndical que vous avez mis en place à Suresnes. En quoi cela consiste-t-il ?
Oui, alors effectivement, la charte de reconnaissance du parcours syndical, je l'ai signée dès 2009 avec nos trois organisations syndicales. L'idée, c'est vraiment de reconnaître les compétences acquises dans le cadre d'un mandat syndical. Mon secrétaire général de la CGT, par exemple, il est aussi chauffeur de bus. Mais bien évidemment, comme secrétaire général, il a développé bien d'autres compétences que celles attachées à son métier de chauffeur de bus. Des compétences en termes de management, des compétences en termes de communication, de comptabilité, d'expression orale, écrite. Et donc ces compétences-là, eh bien, il faut non seulement les reconnaître, mais il faut les valoriser dans une carrière. L'idée, c'est que l'engagement syndical ne constitue pas un frein ou même une fin définitive à la carrière et qu'on ne soit pas obligé de choisir entre l'engagement syndical et sa carrière professionnelle. Et on peut très bien se mettre au service de ses collègues pendant 3 ans, pendant 6 ans, et avoir une belle carrière. Aujourd'hui, on oppose les uns et les autres. Et donc, on s'en enferme dans une carrière, quelquefois, alors qu'on ne le souhaite pas, des représentants syndicaux, dans une carrière de syndicaliste à vie. Eh bien, nous, depuis que nous avons signé cette charte de reconnaissance du parcours syndical, en s'inspirant, j'ose le dire, d'une grande entreprise comme AXA, qu'il avait déjà mis en place dans le privé, eh bien, je compte une demi-journée de grève pour raison locale en 12 ans et un cercle vertueux puisque, comme je l'ai dit, c'est 36 accords gagnant-gagnant que j'ai pu signer avec les syndicats. Et vous faites aussi référence au chèque syndical. Là encore, je me suis inspiré de cette grande entreprise privée et j'ai signé depuis 2015 cet accord qui permet à chaque salarié, à chaque agent de devenir lui-même véritablement acteur du dialogue social, c'est-à-dire qu'il reçoit son chèque à la maison, libre à lui de le mettre à la poubelle, s'il ne souhaite pas l'utiliser, ou de le renvoyer en l'attribuant au syndicat de son choix, chaque année. Et donc, après, chaque syndicat l'utilise, soit pour organiser une conférence, comme ça a déjà été le cas, ou pour acheter du matériel informatique, mais ce sont les salariés, ce sont les agents qui décident. Au lieu d'attribuer des subventions en fonction de la représentativité, une fois qui est faite représentativité tous les 6 ans ou tous les 4 ans, eh bien là, chaque année, ce sont les salariés eux-mêmes qui décident comment ils vont utiliser ces bons.
Alors, Béatrice de la Valette, à Suresnes, vous êtes parvenue à un accord sur la question de la présence des animaux de compagnie sur le lieu de travail. Cela peut sembler anecdotique, et pourtant vous avez montré que ce sujet pouvait apporter du lien social et du bien-être aux personnes qui travaillent avec ces animaux de compagnie.
Oui, effectivement. C'est très loin d'être anecdotique. Et effectivement, si ça fait rire ou sourire certains au début, ça les fait beaucoup moins rire aujourd'hui, puisque je me suis appuyée sur de très nombreuses études. J'ai auditionné des psychiatres, des médecins, des spécialistes du stress au travail. Je me suis intéressée aux politiques mises en place dans les pays d'Europe du Nord, au Japon, aux États-Unis, et je suis, moi, au vu de tout ce travail que l'on a conduit avec mes équipes pendant plusieurs mois, nous sommes absolument persuadés que un travail de qualité implique une vraie qualité de vie au travail. Et donc, toutes ces études montrent que la présence d'animaux domestiques sur un lieu de travail est un vrai facteur d'apaisement, de cohésion d'équipe, de motivation, d'efficacité. Je vais vous citer une étude, c'est une enquête Wannis, qui montre que 80% des sondés estiment que la présence d'un animal a un impact positif sur leur travail. Il y a une étude américaine aussi réalisée dans une université en 2012, la Virginia Commonwealth University, et qui montre que 8 salariés sur 10 disent que avec leur animal de compagnie au bureau, ils ont plus de plaisir à venir travailler, ils se concentrent plus facilement, ils communiquent mieux avec leurs collègues, ils ont un niveau de stress plus bas, ils se sentent plus inspirés et créatifs, et ils ont une plus grande satisfaction dans leur entreprise, dans leur travail, comparé à la moyenne des autres entreprises.
Dernière question, Béatrice de la Valette, il y a un angle mort du dialogue social, c'est celui des métiers ubérisés. Les livreurs ne sont pas organisés, ils ont face à eux une plateforme numérique déshumanisée. Est-ce que c'est un des enjeux de demain, trouver les conditions d'un dialogue social dans un monde dominé par les multinationales ?
Alors, vous avez tout à fait raison. Dialogue social est profondément ancré dans les réalités économiques de l'ancien monde et a encore beaucoup de peine à investir le champ de l'économie numérique, qui est pourtant un secteur majeur aujourd'hui. Donc c'était d'ailleurs un des thèmes d'une table ronde d'un colloque du dialogue social d'il y a 3 ans. Et donc dans ces métiers ubérisés, chauffeur Uber, livreur, Deliveroo, il y a un vrai flou actuellement sur leur statut. Est-ce qu'ils sont salariés? Est-ce qu'ils sont travailleurs indépendants? Et c'est ce flou qui était entretenu par les multinationales, même que le caractère nomade de leur métier, qui empêche les travailleurs de ce secteur de s'organiser, de se syndiquer et de porter leurs revendications. Alors je sais qu'il y a plusieurs syndicats qui se penchent sur cette question depuis plusieurs années, mais le chemin reste encore long. Donc c'est en tout cas une des questions que nous aurons à traiter avec nos experts et nos partenaires sociaux durant ces rencontres du dialogue social.
Merci Béatrice de la Valette. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Suresnes en charge des relations humaines et du dialogue social. Et vous organisez ce mardi 19 octobre la 8e rencontre du dialogue social dans votre ville de Suresnes. Bonsoir.
Merci beaucoup Loïc Barrière.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.